IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio, votre radio valdoisienne, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Issue du monde politique, économique ou social, mes invités font l'actualité. Et ce matin, vendredi 14 mars 2025, en direct et jusqu'à 11h, mise à l'honneur de trois d'entre eux, chacun du Val d'Oise. J'ai donc le plaisir d'accueillir Anne-Lise Wistup-Gilbert. J'ai bien prononcé?
Oui, c'est exactement ça. Bonjour.
Bonjour Anne-Lise. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Avocate au barreau du Val d'Oise en droit pénal et en droit des étrangers, vous êtes également la bâtonnière depuis le 1er janvier 2025 du barreau du Val d'Oise. Avec vous, nous découvrirons le sens de cette démarche et puis toutes les casquettes que regroupe ce titre. À vos côtés, Corinne Relmy et Christophe Givois. Bonjour Corinne, bonjour Christophe.
Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Tous deux administrateurs de la SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement Val d'Oise.
Exactement.
Vous, Corinne, en tant que directrice, et vous, Christophe, en tant que président. Avec en parallèle le métier de travailleuse sociale pour vous, Corinne, et de comédien pour vous, Christophe.
C'est une autre vie, oui.
C'est ça. Avec nous ce matin pour nous présenter donc la SNL 95, sa structure et ses missions basées sur quatre piliers que vous nous dévoilerez dans quelques instants. Bienvenue à tous les trois au micro d'IDFM Radio et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct.
Merci à vous.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Anne-Lise Wistup-Gilbert, alors peut-être pouvez-vous vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs?
Oui, alors donc Anne-Lise Wistup-Gilbert, donc avocat depuis 18 ans. Moi j'ai mon cabinet sur la ville d'Aubonne, on est trois avocats et donc je me suis présentée au Conseil de l'Ordre déjà. Pour être membre du Conseil de l'Ordre, c'était fin 2017, donc à partir de 2018.
Oui.
Et j'ai été élue donc bâtonnière du Val d'Oise l'année dernière pour commencer donc un mandat depuis le 1er janvier dernier pour deux ans, 2025-2026, donc pour représenter mon barreau.
Ah oui, donc il faut s'y prendre très à l'avance pour obtenir l'élection.
L'élection en fait se fait six mois avant, donc au mois de juin donc 2024, là en l'occurrence, oui. Pour le bâtonnat 2025-2026, parce que pendant six mois, en fait, alors on appelait ça le dauphin avant quand ça durait un an, maintenant c'est bâtonnier élu, mais ça me permet de suivre en fait le bâtonnier en exercice, de rencontrer un petit peu les différents protagonistes, partenaires, de comprendre un petit peu comment ça se passe pour pouvoir être dans le bain dès le 1er janvier, parce que deux ans ça passe très vite.
Oui, ça passe très très vite, oui, quand on veut mettre en place certaines modifications, ça passe très très vite, oui. Donc vous avez un DSS de droit de la bioéthique, vous avez un DU juriste bilingue anglais-français, et comme je l'ai dit, vous faites du droit pénal et du droit des étrangers.
Droit pénal et droit des étrangers, c'est ça, sur le barreau. Ben, en règle générale, maintenant, la profession d'avocat avant était très généraliste et plus ça va, plus effectivement on a tendance chacun à tout étant le droit étant de plus en plus technique, à se diriger vers des matières précises pour pouvoir être suffisamment pointu pour pouvoir aider les justiciables. Donc moi, effectivement, en l'occurrence, c'est droit pénal et droit des étrangers, donc l'aide à la régularisation et le soutien devant les différentes juridictions administratives en droit des étrangers, et puis le droit pénal, ça a priori, ça parle à peu près à tout le monde.
Oui, c'est plus courant. Et je vois que vous êtes bilingue de anglais-français, c'est pas courant pour un avocat d'être bilingue?
Oui, mais bilingue, je le suis peut-être plus tout à fait aujourd'hui, mais en fait je savais pas trop au moment du bac ce que je voulais faire, donc j'avais commencé par faire LEA, langues étrangères appliquées.
D'accord.
Et donc quand j'ai fini par bifurquer sur le droit, je voulais garder quand même un petit peu les langues et donc ça permet d'avoir un diplôme pour ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est un diplôme bilingue, mais qui permet aussi de voir toutes les différences avec le système anglo-américain, qui est très différent du nôtre, au niveau de, c'est un système accusatoire, alors que nous, on est inquisitoire, etc. Et donc, ça permet d'avoir un certain recul, et c'est très intéressant.
Et du coup, vous avez passé une licence de droit américain ou anglais? Non, pas du tout.
C'est un diplôme universitaire,
c'est ça.
Diplôme universitaire, niveau
DU,
licence.
D'accord, très bien. Et donc, vous avez souhaité vous engager pour votre propre barreau. C'était une évidence pour vous, ce bâtonnat?
Alors, c'est devenu une évidence une fois que j'étais membre du Conseil de l'Ordre. C'est-à-dire qu'à la base, quand j'étais avocate, tout simplement, pas forcément, j'envisageais pas du tout de partir là-dessus. Et puis c'est le bâtonnier rénal qui était bâtonnier, donc il y a deux exercices de cela, qui m'a fait monter membre du Conseil de l'Ordre. Et là, je me suis retrouvée donc au milieu de sur le devant de la scène, et puis de comprendre un petit peu de l'intérêt d'avoir du recul et de prendre un petit peu de hauteur sur comment tout ça fonctionne. Et donc ça m'a plu, de pouvoir mettre un peu les mains dans le cambouis, et de pouvoir
participer au rouage,
complètement au rouage, et d'améliorer un peu le quotidien de mes confrères. C'est-à-dire que avocat, on est là pour aider le justiciable, aider les autres. Et là, d'un seul coup, se retrouver membre du Conseil de l'Ordre, on se retrouve aussi à aider ses propres confrères. Donc, c'est une casquette différente, mais au final, c'est un peu le même métier, la même chose.
Oui.
Et donc, voilà, ça m'a plu, et de là, c'était assez naturel de monter jusqu'au bâtonnat.
Alors, quelques mots justement sur ce rôle de bâtonnière. Vous l'êtes depuis peu, le 1er janvier de 2025. Et c'est vrai que vous nous disiez avant l'émission que vous avez fait connaissance d'un petit peu tout le microcosme valdoisien.
C'est ça, les différents partenaires, les différents chefs de juridiction, parce que finalement, il y a aussi bien le tribunal judiciaire, le tribunal administratif, la cour d'appel, la cour administrative d'appel, les conseils de prud'hommes, le tribunal de commerce, les juridictions de proximité. Et puis après, il y a tous les partenaires autres. Donc, j'ai rencontré le préfet, la présidente de département, les différentes associations. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment de se présenter à tout le réseau pour pouvoir travailler ensemble pendant 2 ans et mettre en place des nouvelles choses et faire évoluer le barreau.
Autant de juridictions qui peuvent justement faire appel à vous?
Oui, on intervient, nous, devant toutes les juridictions, effectivement, et dans tous les avocats n'interviennent pas devant toutes les juridictions.
Oui.
C'est tout l'intérêt. Moi, alors, effectivement, je représente les 540 avocats du Val d'Oise, mais concrètement, c'est 540 avocats complètement différents.
Oui.
Donc, il y a effectivement les avocats pénalistes, les avocats qui interviennent en droit de la famille, en prud'homme. Et donc, tout l'intérêt aussi d'avoir un conseil de l'ordre derrière soi. Donc, j'ai 18 membres du conseil de l'ordre qui sont élus pour représenter le barreau et qui permettent justement d'avoir ces différentes affinités de procédures et avoir un recul nécessaire sur toutes les procédures pour pouvoir justement aider les confrères au quotidien à la mise en place de permanence, à la mise en place de communication quand il y a des difficultés avec les juridictions, des nouvelles idées de communication externe, de publicité du barreau, etc., etc.
Oui.
Et donc, voilà, comme moi, j'ai une vision qui est la mienne sur mes matières, ce qui est intéressant après derrière, c'est de travailler avec l'ensemble du barreau et les membres du Conseil de l'Ordre pour pouvoir mettre en lumière l'ensemble des matières et pas uniquement les miennes.
Bien sûr. Oui, c'est le but. À travers ce que vous nous décrivez, j'ai l'impression que ça prend pas mal de temps quand même.
Ça prend énormément de temps, mais concrètement, j'essaye de garder un pied dans mon cabinet un jour par semaine.
Oui.
Là, depuis le début de l'année, c'est plus un demi-jour, une demi-journée par semaine.
Ça va se régulariser.
Au fur et à mesure, je pense que ça ira mieux. Mais en gros, oui, un jour par semaine au cabinet, et donc 4 jours par semaine, voire 5, parce qu'il y a souvent le travail le week-end pour le bâtonnat.
Très bien. Le bâtonnier, c'est aussi le garant de la discipline et c'est celui qui veille au respect des règles déontologiques.
C'est ça, en fait. En gros, le bâtonnier a un peu 3 casquettes. Il y a effectivement cette casquette de la discipline parce que l'avocat a un monopole de la consultation juridique et de la représentation devant les tribunaux. Et donc, pour cela, on a une déontologie qu'il faut faire respecter. Donc, le bâtonnier est là pour veiller à ce que cette déontologie soit respectée. Donc, la gestion des plaintes éventuelles, la saisine du Conseil régional de discipline, le cas échéant, quand il y a réellement des fautes qui sont commises, effectivement, par l'un de mes confrères. Et à côté de cette discipline, les 2 autres casquettes, c'est la casquette de représentation, donc, dont on vient un petit peu de parler, donc le fait de représenter tous les avocats du Val d'Oise et de façon locale et aussi au niveau national, parce qu'on a des liens réguliers avec l'ensemble des bâtonniers de France, et notamment le barreau du Val d'Oise, en fait, est le 20e plus gros barreau de France hors Paris. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 164 barreaux sur toute la France. Paris regroupe la moitié des avocats, grosso modo, de France, et l'autre moitié, c'est 163 barreaux, avec les 20 plus gros barreaux, dont le Val-d'Oise fait partie. Mmh. Et donc, on a toute cette partie représentation de la profession, et représentation aussi donc auprès des instances et au niveau local. Et la troisième casquette, c'est un petit peu la gestion du quotidien, c'est-à-dire le soutien des confrères au quotidien, l'amélioration de leur quotidien, le fait de garder un petit peu un esprit de communauté au sein du barreau, parce que même si on est un gros barreau, on essaye de rester un barreau un petit peu familial, de rester dans la convivialité et de créer des liens au maximum, le réseau local, parce que c'est important aussi de rester sur le local et sur l'Île-de-France et le Val-d'Oise spécifiquement.
Bien sûr. J'avais reçu Sébastien Rénal et on avait évoqué la proximité de Paris par rapport au Val-d'Oise. C'est une vraie concurrence. Enfin, comment le vivez-vous ?
Alors, c'est une vraie concurrence en fait, parce que dans l'esprit des gens, je pense que souvent en tout cas, on entend que voilà, on veut un bon avocat.
On s'imagine qu'à Paris, ça sera mieux.
À Paris, ça sera mieux. Ou alors Nanterre, parce que Nanterre, le barreau des Hauts-de-Seine, c'est le droit des affaires, donc s'imagine que pareil. Alors que je pense que sincèrement, c'est une erreur et on le voit bien. C'est-à-dire que souvent, on voit des clients qui étaient partis à Paris et puis qui finalement qui reviennent sur un confrère du Val-d'Oise, parce que nous, effectivement, voilà, on est sur place. On connaît nos juridictions, et on est un barreau vraiment avec toutes les matières. C'est-à-dire qu'on a plein d'avocats qui font du droit des affaires, on a plein de matières spécifiques, par exemple le mot m'échappe, mais
ça va vous revenir.
Oui, ça va me revenir, pardon, excusez-moi. Mais on intervient vraiment dans tout type de matière, que ce soit dans le conseil ou dans le contentieux, et donc il y a tout intérêt à venir prendre un avocat du CRU qui est là, connaît bien effectivement, donc c'est important de communiquer et d'exister au milieu de ces deux très gros barreaux.
C'est un peu pour ça que je vous posais la question, pour que vous nous disiez que le Val d'Oise n'a rien à envier, Paris n'a rien à envier au Val d'Oise, au contraire. Merci Annelise, je propose qu'on fasse une courte pause et puis on reprend cette interview.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin j'ai le plaisir d'accueillir Annelise Wistup-Gilbert, bâtonnière depuis le 1er janvier 2025 du barreau du Val d'Oise, avocate en droit pénal et en droit des étrangers, Corinne Relmy et Christophe Givois, chacun administrateur de l'association SNL, Solidarité Nouvelle pour le logement Val d'Oise. Alors Annelise, je crois que vous avez retrouvé le mot que vous cherchiez tout à l'heure.
Oui, la propriété intellectuelle.
Oui, c'est important ça,
C'est une matière très spécifique et on a tendance, et effectivement c'était l'exemple typique pour dire que certains justiciables vont se dire c'est très spécifique, on va aller chercher sur Paris ou sur le droit des affaires dans les Hauts-de-Seine, alors qu'on a plusieurs avocats qui pratiquent effectivement la propriété intellectuelle sur le Val-d'Oise et qui a aucun intérêt à partir ailleurs alors qu'on en a sur place.
Oui, on en connaît une, on en connaît une bien, c'est Aurore
Bonavia,
oui absolument. Alors Annelise, vous êtes également, je vois, vice-présidente de la CARPA, donc la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, qui s'occupe des maniements de fonds.
C'est ça.
C'est important aussi d'avoir ce titre.
C'est important aussi parce qu'en fait, alors
c'est une grosse responsabilité.
Grosse responsabilité parce que donc c'est tous les maniements de fonds. Donc en fait, toutes les décisions de justice qui condamnent des personnes à régler des sommes, etc. Ça passe nécessairement par cette CARPA et pour avoir ne serait-ce qu'une preuve de règlement, etc. Donc et en parallèle, nous c'est ce qui nous permet le financement de beaucoup de choses au niveau de l'aide juridictionnelle, au niveau puisque ces sommes qui sont versées sur la CARPA portent des intérêts. Et donc, ce qui nous permet après, nous, derrière, de pouvoir financer la gestion de la profession. Donc, c'est beaucoup de sommes. Donc, je suis vice-présidente. On a un président qui est différent de moi. Donc, on est deux à la tête de la CARPA pour pouvoir gérer effectivement tout ça.
C'est la CARPA Val-d'Oise ?
Val-d'Oise, oui. Certains barreaux ont des CARPA mutualisés sur plusieurs barreaux. Nous, on est seul à bord.
On disait que vous êtes aussi le garant de la discipline. C'est fréquent les plaintes, les arbitrages.
Alors, les plaintes sont fréquentes, les fautes réelles beaucoup plus rares.
Oui, oui.
C'est-à-dire que souvent, je vais recevoir une dizaine de plaintes par semaine.
Ah oui.
Qui vont nécessiter peut-être mon intervention juste sur le fait, enfin voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été compris avec l'avocat, donc passer un petit coup de téléphone, remettre la relation en lien ou changer d'avocat. Il y a toutes les commissions d'office aussi en parallèle. Mais au final, très peu de vraies fautes déontologiques, c'est assez rare qu'on saisisse le Conseil régional de discipline concrètement. Mais c'est important, voilà, quand il y a une incompréhension face à un confrère ou une incompréhension entre avocats, parce que ça arrive aussi qu'il y ait des incidents d'audience ou des confrères où le ton va monter un petit peu, où ça va dégénérer, voilà. L'avocat est là, le bâtonnier est là pour être arbitre, faire redescendre un petit peu, faire en sorte que mettre de l'huile dans les rouages pour que ça se passe au mieux en fait concrètement.
Oui. Et on vous appelle dans ce cas-là en audience ou c'est pas forcément.
On peut intervenir directement en audience quand vraiment la situation dégénère. Alors c'est pareil, c'est pas le plus fréquent qu'on s'entende bien, mais
puis en plus il faut que vous soyez disponible à ce moment-là.
Alors si je suis pas disponible, j'ai les 18 membres du conseil de l'ordre et les anciens bâtonniers.
C'est ça.
Donc on
d'accord.
est quand même toute une équipe, je suis pas toute seule aux commandes. Concrètement, heureusement que je suis pas toute seule. Donc on est en gros une trentaine à pouvoir intervenir en urgence quand il y a besoin.
Oui, d'accord. Donc il y a toujours quelqu'un de disponible dans ce cas-là.
Oui, bien sûr.
Vous nous expliquiez donc votre relation avec les différentes institutions et partenaires, et je vois aussi que vous avez parmi vos partenaires des gens du spectacle. Alors ça peut intéresser Christa Ogivois, qui est comédien. Vous êtes en lien.
Pardon. Là, je suis là pour parler de.
Oui, mais bon, bien sûr. Donc c'est important ce lien avec le monde.
Et ce qui est important en fait, c'est d'être ancré sur le terrain et sur le Val d'Oise. Donc effectivement, on a des partenariats avec Point Commun, qui est le théâtre de Cergy. On a un partenariat avec Utopia, le Utopia Saint-Ouen-l'Aumône Pontoise. Et donc voilà, pour donner l'exemple d'Utopia, on crée des soirées débats. Alors on a fait une le 30 janvier sur l'assistance éducative, où donc il y a un film qui est diffusé et après un débat. Donc là, il y avait un avocat, il y avait des éducateurs de la sauvegarde 95, il y avait une députée qui était là aussi de la deuxième circonscription du Val d'Oise pour après voilà discuter sur les sujets d'actualité d'ordre juridique. Et donc on a une autre soirée qui va être prévue de mémoire le 1er avril sur sur MeToo, c'est-à-dire que c'est un film sur une journaliste japonaise qui a subi une agression sexuelle et qui va raconter dans le cadre d'un documentaire toutes les embûches et toutes les difficultés pour pouvoir dénoncer et arriver jusqu'au procès. Et donc voilà, pareil, on va essayer de faire venir donc les avocats bien sûr, mais des interlocuteurs du tribunal judiciaire pour pouvoir après échanger avec la salle sur ces difficultés, ces sujets d'actualité sociétaux touche au judiciaire et au juridique.
C'est ce fameux MeToo, est-ce que ça a bouleversé les codes juridiques ?
Alors ça a bouleversé beaucoup de choses parce que les plaintes sont aujourd'hui reçues, traitées, il y a énormément plus de plaintes qu'avant 2017, ce qui fait que ça a complètement changé concrètement.
Mais pour reprendre l'expression, la parole se libère.
La parole se libère et la parole est prise en considération. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a une parole davantage prise en considération et une parole qui se libère. Et les deux bout à bout, ça implique donc un audiencement correctionnel qui a été complètement transformé sur ces dernières années et des audiences du coup très compliquées au niveau du tribunal correctionnel, puisqu'on a beaucoup plus de dossiers qu'avant en matière vif, donc violence intrafamiliale, qu'il faut gérer et intégrer en plus du flot restant de toutes les infractions qui existent aussi également. Donc c'est une vraie complexité.
Oui, en tenant compte aussi des dispositifs qui ont été mis en place récemment, justement pour les vifs avec
le bar, le bracelet anti-rapprochement qui a commencé sur le Val d'Oise. On a été le premier département à mettre ça en place. Il y en a une vingtaine, je crois, maintenant, qui sont actifs actuellement sur le Val d'Oise. Et oui, effectivement, on a toujours été assez précurseurs sur le Val d'Oise, sur tout ce qui est violence intrafamiliale. Déjà, avant MeToo, hein, on avait une présidente du tribunal judiciaire il y a quelques années qui avait fait en sorte qu'on soit vraiment précurseur sur ces matières-là.
Oui, 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 qui est partie en province.
Qui est partie, oui.
Anne-Lise, donc vous nous avez dit que le barreau du Val d'Oise, c'est 500 avocats. Oui. Beaucoup sont jeunes et certains même se trouvent assez seuls. Donc, oui. C'est comment expliquez-vous cette...
Alors en fait, on est effectivement un des barreaux les plus jeunes de France sur le Val d'Oise, et en fait, pour vous expliquer un peu l'historique au niveau de la profession, il y a une vingtaine d'années, il y avait un stage, c'est-à-dire que quand on sortait de l'école, on avait 2 ans obligatoires de stage, où on était donc obligé de rester auprès d'un avocat, donc plus aguerri, pour apprendre un petit peu les ficelles, etc. Et ce stage n'existe plus pour des règles européennes.
Ah oui.
Voilà, il a dû sauter, il n'existe plus. Et donc, depuis 2007 ou 2008, les avocats peuvent sortir de l'école et s'installer directement. Parce que liberté d'entreprendre, etc., etc. Et alors, très bien, pourquoi pas, mais la difficulté, c'est qu'effectivement, on se retrouve parfois avec des avocats qui sont un peu isolés, qui arrivent, s'installent, et moins cette notion un petit peu de communauté, et donc on essaye de travailler dessus, ça fait partie du rôle du bâtonnier, de faire en sorte que les avocats ne soient pas seuls, de créer soit des événements de convivialité, soit des moments d'écoute, de partage, etc., pour permettre à ces avocats de ne pas être seuls dans leur exercice professionnel, de pouvoir échanger, de pouvoir... Voilà, ça c'est très important. Et effectivement, moi j'ai constaté, donc outre ce stage qui a disparu, et ça c'est vraiment plus au niveau sociétal, c'est-à-dire c'est pas uniquement le barreau du Val d'Oise, mais le Covid a fait que chacun a été un peu plus dans l'individualisation.
C'est le mal de notre siècle.
Voilà, exactement. Ouais. C'est quelque chose qui a été problématique pour tout le monde. Et donc là, voilà, c'est vraiment notre rôle à nous de faire en sorte, au niveau de notre barreau, que cette individualisation ne persiste pas et de recréer vraiment une communauté, du lien, et entre les avocats et avec nos différents partenaires, avec la juridiction, avec qui on fait partie des barreaux qui avec qui ça se passe très bien, avec les juridictions. C'est pas le cas partout.
Oui, c'est vrai.
Et donc voilà.
Le Val d'Oise est réputé pour avoir une vraie il y a une vraie solidarité entre tous les acteurs du territoire.
On est ce qu'on appelle un barreau familial. On est vraiment resté comme un petit barreau alors qu'on est 540 avec les avocats honoraires, ce qui est quand même énorme.
Je pose la question à Corinne et Christophe. Vous faites forcément appel à des avocats pour l'association.
Ça nous est arrivé pour des problèmes de régularisation de séjour.
Oui.
Voilà,
vous avez une spécialiste à côté de vous.
On a un couple de locataires qui est en pleine démarche depuis plus d'un an. Donc c'est intéressant d'être à côté d'Anne-Lise pour demander des tuyaux à la fin de l'émission.
Le hasard fait toujours bien les choses. Christophe, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, Corinne connaît mieux le terrain que moi à ce niveau-là.
D'accord, à ce niveau-là.
Et en fait, mon rôle est un peu aussi d'avoir plus d'éloignement.
Oui, oui.
Et de laisser discrètement
de recul par rapport à certaines situations. Ouais, très bien. Alors ne partez pas, on continue cette interview dans quelques minutes. À tout de suite.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Mais si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré tout. Mais
Merci bien pour la pièce. En ce moment c'est dur,
je confesse.
Moi je vais m'en sortir,
je l'atteste.
Toujours avoir un toit,
une adresse.
Si de toi à moi,
c'est dur, je stresse.
Mais mon rôle n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire?
À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu?
Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonner.
Si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restantez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endorme, réveillez-vous? Il fait si froid dehors, le restantez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endorme, réveillez-vous? Il fait si froid dehors, le restantez-vous? Il fut un temps où j'étais.
IDFM 98FM.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Et à mes côtés, Annelise Vistup-Gilbert, bâtonnière du barreau du Val d'Oise. Et Corinne Rémy et Christophe Givois. Donc Corinne, qui est directrice de l'association SNL et donc salariée. Pardon, tout à l'heure, Corinne, j'ai dit que vous étiez administratrice. Et Christophe Givois, lui, vous êtes bien administrateur puisque vous êtes président de cette association.
Tout à fait.
Alors Annelise, on revient à votre rôle de bâtonnière. Donc on a compris que vous étiez un petit peu sur tous les fronts pour arriver à faire en sorte que ce barreau familial évolue le mieux possible. Comment voyez-vous la profession dans les années à venir?
Alors la profession, elle est, on doit la défendre, c'est important parce que c'est une des bases de l'état de droit, c'est la profession d'avocat. En général, quand on commence à s'attaquer aux avocats, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de la démocratie et de cet état de droit. Et ça a été un petit peu notre inquiétude là en début d'année parce qu'on a eu coup sur coup plusieurs attaques. Et c'est facile en fait quand on attaque le système judiciaire de s'en prendre aux avocats parce que voilà, c'est pas la fonction publique, c'est un petit peu à côté, ils sont indépendants, etc. Donc on est un petit peu une cible facile. Et donc c'est très important de protéger l'avocat et de protéger notre rôle parce qu'on est indispensable en fait et on n'est pas là pour empêcher les vilains trafiquants de drogue puisque là c'était un petit peu le sujet sur le projet de loi actuel en matière de narcotrafic, de dire que l'avocat est là pour faire en sorte que son client ne soit pas incarcéré, ne soit pas condamné. C'est une vision complètement biaisée de notre profession. On est là en fait, on est partie pleine de la justice pour que la justice soit équitable et soit prononcée correctement. On est là pour vérifier que les lois et les règles sont effectivement appliquées. On n'est pas là pour innocenter les coupables. C'est une vision complètement biaisée. Oui. Et donc, c'est important de se battre là-dessus.
Je crois que ce qui choque souvent, c'est quand on a affaire à des personnes vraiment, on va dire entre guillemets, coupables, enfin en tout cas horribles, et il y a un avocat qui est là pour le défendre, et ça fait, c'est toujours, il y a, mais bon,
oui,
chacun
mais
a droit à être défendu, hein,
oui,
bien sûr.
Et alors, le mot défense, je pense, a peut-être été mal choisi, alors c'est comme ça, on parle de défense. Moi j'ai souvent tendance à dire que j'assiste mes clients plutôt que je les défends, parce que je pense que c'est, alors en vrai, je les défends, mais ce que je veux dire, c'est que je les assiste dans le sens où c'est plus clair dans l'esprit des uns et des autres de se dire que voilà, je suis là. Des fois, je suis là pour qu'il soit correctement condamné, pour faire en sorte qu'il comprenne les différentes lois, porter sa voix. Je suis pas forcément là pour innocenter quoi qu'il arrive. Enfin, on a quand même un certain nombre de clients, pour ne pas dire un nombre de clients certains, qui sont là et qui reconnaissent parfaitement les faits. Donc après, c'est une image, oui, qui ne correspond pas à la réalité, ce qu'on va vous donner, comme de dire que alors après c'est des grandes phrases, mais de dire que la justice est excessivement laxiste, etc. Enfin, on est sur
c'est le législateur derrière qui doit,
parce que, et puis nous concrètement, enfin on a la plupart des prisons, enfin là on atteint les 200% de personnes incarcérées sur notamment la maison Pontoisoni, c'est des chiffres complètement hallucinants. Donc on peut pas dire qu'il y a pas de répression, c'est pas vrai. Après tout ça, c'est du langage politique, il faut prendre un petit peu de recul, etc. Mais donc oui, l'avocat, il est là pour assister, il est là notamment quand une personne n'est pas condamnée, on sait pas encore si elle est coupable ou pas, de vérifier avant tout que les règles qui ont été posées pour que le procès soit juste et équitable ont été effectivement respectées. Ne pas permettre à l'avocat de faire ça, c'est problématique, et ça fait partie du débat actuel sur la loi narcotrafic, où il est envisagé de créer ce qu'on appelle un coffre, c'est-à-dire une partie des pièces de la procédure qui ne serait plus accessible aux avocats, qui ne serait complètement sortie du contradictoire, et ce qui pose une vraie difficulté, parce que ça veut dire que l'avocat ne peut même plus vérifier, par exemple, dans le cadre, alors je vais donner un exemple bateau, mais la pose d'une balise, par exemple, sur une voiture, pour pouvoir surveiller des personnes, eh ben, on va pas pouvoir vérifier si la balise est effectivement bonne, si elle a été posée dans des conditions de respect de la législation, de la réglementation. On ne pourra plus vérifier ça. Et donc, c'est vraiment une perte de droit pour le justiciable. C'est là où je dis qu'il y a un problème de positionnement par rapport à l'avocat, de se dire l'avocat est là pour empêcher les personnes d'aller en prison. C'est beaucoup plus, enfin c'est pas ça notre rôle, et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être le mot défense
qui est pas à bon escient.
Exactement.
Et dans ce cas-là, là sur ce que vous nous racontez, vous rencontrez le garde des Sceaux pour le sensibiliser à cette problématique.
Alors j'ai eu l'occasion de le rencontrer moi la semaine dernière. Donc il s'est déplacé sur le Val d'Oise pour visiter le SPIP, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et donc ça a été l'occasion de discuter. Alors là, pas de la loi narcotrafic, parce que c'était pas le sujet qui était évoqué, puisque le SPIP est plus là pour suivre les prévenus avant condamnation, donc en pré-sententiel, soit les condamnés post-sententiels sur le suivi, donc les sursis probatoires, les suivis de peine. Et donc là, les questions, c'était plus des questions par rapport au travail d'intérêt général, donc le bracelet anti-rapprochement, le quartier de personnes radicalisées qu'on a aussi à la maison d'arrêt de Pontoisoni. Voilà, c'était ce type de sujet qui était abordé, mais voilà, c'est ce qui a permis de rappeler effectivement le rôle de l'avocat, parce que les avocats, effectivement, se sont tous sentis un peu... Ça a été un petit peu dur, l'arrivée du garde des Sceaux, qui a commencé par attaquer les avocats, et donc de recréer de liens, donc, en expliquant, voilà, par exemple, l'exemple du travail d'intérêt général, où l'avocat est primordial, parce que c'est nous qui rencontrons le prévenu avant qu'il arrive à l'audience. On peut lui présenter la peine, lui expliquer, puisqu'on est obligé, le travail d'intérêt général, on est obligé d'avoir son accord pour pouvoir le condamner à une peine d'intérêt général, sinon ce serait du travail forcé. Donc on peut pas.
C'est vrai, ça serait de l'esclavage.
Exactement. Pour pouvoir obtenir son accord et pour que la peine soit bénéfique, donc qu'il aille après vers le SPIP pour mettre en place éventuellement une réinsertion à terme, donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, ce type de peine. Et ben, l'avocat, il est en première ligne, parce que c'est lui qui va préparer son client, qui va lui expliquer le processus, qui derrière va pouvoir regarder les missions de travail d'intérêt général qui sont disponibles sur le Val d'Oise, parce qu'on a un système pour ça avec les juridictions, avec le SPIP, qui nous permet d'aller voir les missions qui sont disponibles, et donc d'arriver le jour de l'audience avec un dossier tout prêt, présenté au juge. Donc voilà, c'était l'occasion de présenter et de rappeler au garde des Sceaux que non, les avocats sont parfaitement légitimes, et on a tout intérêt à faire appel aux avocats, il faut les prendre en considération.
Oui, ce dont j'imagine qu'il est persuadé malgré tout, c'était oui. peut-être, voilà, comme vous dites, ça devient politique.
C'est ça.
L'instauration de ce dossier coffre, ce n'est pas voté.
Non, c'est pas voté, c'est un projet de loi en cours.
C'est un projet, oui. Parce que, toujours par rapport au narcotrafic, je crois qu'en revanche, ce qui a été voté, c'est l'instauration d'un parquet spécialisé.
Alors, ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet
contre le terrorisme
et avec voilà la difficulté de faire voilà un parquet national et donc de se dire ben voilà donc il y a plus de ça sera les avocats. Parisien, on fera appel aux avocats parisiens plutôt que les avocats sur place sur les différentes régions. Et quel est l'intérêt à un moment donné de ne pas permettre un maillage au niveau national à ce niveau-là? On va perdre ce maillage-là aussi avec ce parquet national.
Bien sûr, bien sûr. Quand je vous posais la question sur l'avenir de la profession, je pensais aussi à l'intelligence artificielle,
oui,
parce que c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet, mais qui est passionnant. Alors, j'ai aucun doute sur le fait que l'avocat ne sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais que par contre, nous, on va devoir apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle, comme il y a 25 ans.
Ça peut rendre des services. Oui.
Comme il y a 25 ans, on a appris à travailler avec Internet. Internet a révolutionné notre façon de travailler, et l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. Donc, ça va nous permettre effectivement probablement de gagner du temps, d'être plus précis éventuellement, mais il y aura toujours déjà d'une part ce travail de vérification, parce qu'on a eu, c'était l'année dernière je crois, où il y a un avocat américain qui s'est fait condamner.
Oui, il a été radié je crois.
Voilà, ouais. Parce qu'effectivement il s'est servi dans le cadre d'un dossier, d'une jurisprudence qu'il avait trouvée, donc d'une décision de justice qu'il avait trouvée dans le cadre d'une recherche avec l'intelligence artificielle, et qui finalement s'était avéré être une fausse décision inventée par l'intelligence artificielle. Et donc, il n'avait pas pris le temps de vérifier. Donc, effectivement.
Oui, il est allé droit au but.
Donc, il faut, quoi qu'il arrive, toujours vérifier. Et après, effectivement, on reste le recul nécessaire et le travail de conseil et de recul que l'intelligence artificielle ne pourra pas nous enlever.
Bien sûr, bien sûr. Merci de ces précisions. Annelise, je propose qu'on fasse encore une courte pause et puis vous allez nous parler des consultations auprès des entreprises.
Oui.
À tout de suite.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio et il me reste encore deux questions à poser à Annelise Vistup-Gilbert, bâtonnière du barreau du Val d'Oise. Alors Annelise, vous m'avez parlé d'un partenariat en cours d'élaboration avec Olvid, une messagerie instantanée. Alors expliquez-nous.
Alors en fait, les messageries instantanées, donc tout le monde voit à peu près ce que c'est, on utilise beaucoup les uns les autres, il y a WhatsApp, il y a Telegram, il y a Signal. Et nous, on se sert au niveau des différents barreaux, effectivement, de messagerie instantanée, mais pour pouvoir voilà organiser les permanences, faire remonter les informations, discuter entre confrères quand il y a aussi besoin d'un coup de main, il y a un retard, un dossier à faire retenir. Enfin voilà, il y a plein d'occasions de se servir comme ça de par groupe matière de messagerie instantanée. Et moi, je voulais pas qu'on mette en place des groupes complets sur WhatsApp parce que la sécurité est pas forcément complète.
Pas à 100%,
ne serait-ce que parce qu'il faut un numéro de téléphone. Je crois qu'il faut aussi la date de naissance pour s'inscrire sur WhatsApp. Et ça, c'est des données qui, après, voilà, peuvent potentiellement être utilisées. Donc, pour éviter ça, j'ai essayé de chercher un petit peu ce qui s'offrait à nous, ce qu'il était possible de faire. Et je suis tombée sur Olvid, donc, qui est une société, une messagerie française. Donc, exactement le même principe que toutes ces autres messageries. Mais complètement chiffrée et complètement sécurisée. Je crois que c'est la plus sécurisée qui existe. Elle est utilisée notamment par le gouvernement français. Elle est utilisée, je crois, par l'armée. Enfin voilà, elle est vraiment très haut de gamme. Et ne serait-ce que voilà, pour s'inscrire, ni numéro de téléphone, ni adresse mail, ils ne conservent aucune donnée personnelle. Donc on est vraiment sûr de la protection maximale. Et donc sur une profession comme la nôtre, c'est forcément très intéressant. Donc on est en train voilà de créer le partenariat pour pouvoir nous voilà chiffrer de bout en bout et protéger l'ensemble des communications à l'intérieur du barreau entre les confrères. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec Olvid en ce moment.
Très bien, bah écoutez, bravo pour cette initiative. Alors, il y a également des consultations auprès des entreprises. Oui. Vous en avez fait plusieurs. Là, je vois pour avec la CCI, il y en a une le 4 mars. Et le 18 mars, la Chambre des métiers le 4 mars également, Roissy Développement le 13 mars, Valparaisis le 13 mars, et puis donc il y en a une prochaine le 28 mars à Plaine-Vallée. C'est important ces consultations.
C'est important parce que c'est notre proximité avec le département. Donc on a effectivement ces consultations en droit des affaires, droit des entreprises qui sont mis en place et qui sont développés maintenant depuis plusieurs années, qui permettent aux entreprises de voir que les avocats en droit des affaires sont présents sur le barreau du Val d'Oise et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aller ailleurs. On a aussi des consultations juridiques gratuites, donc c'est des consultations gratuites, celles dont vous venez de parler. On en a aussi pour les justiciables, pas uniquement en matière d'entreprise. Donc là, c'est toutes celles que vous avez citées, c'est tout ce qui concerne le droit des affaires, les entreprises. On a aussi en maison de justice, en mairie, en point d'accès au droit, des consultations pour les justiciables, soit des consultations d'ordre général, donc en matière de droit de la famille, etc., soit plus spécifiques. Je sais qu'on a des consultations spécifiques, droit des étrangers, celle-là forcément je les connais. On a des consultations spécifiques en droit du travail, enfin voilà. Et il faut expliquer aux gens, il faut pas hésiter à se renseigner, à téléphoner, à regarder sur le site internet. On a un site internet qui est très bien fait, qui rappelle un petit peu toutes ces possibilités de rencontrer un avocat gratuitement. Alors pas pour qu'il vous fasse tout votre dossier, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Le but, c'est de comprendre un petit peu et de prendre un petit peu de recul sur une situation et de pouvoir être orienté vers la procédure qui correspond le plus, et après à voir si c'est avec un avocat, sans un avocat, mais le but, c'est d'orienter.
Sur quel site internet, pardon?
Sur le site avocat95.fr.
Avocat95.fr, d'accord.
Merci.
Et est-ce que je crois avoir compris que Corinne Relmy était très intéressée par ce genre de consultation pour des associations comme la vôtre, Corinne?
Exactement, c'est ça? Parce que en fait, on a des locataires qui ont différentes problématiques, donc ça va être la régularisation sur le droit français, avoir été expulsé par des marchands de sommeil et donc avoir payé des loyers dont on peut pas récupérer. Donc avoir l'assistance d'un avocat, c'est tout à fait important et pertinent pour nous. Donc c'est intéressant ce que vous dites, quoi.
Et alors du coup, je me fais un petit peu la mise en relation. Comment, si par exemple la SNL voulait avoir ce genre de consultation, que faut-il faire pour qu'une association puisse prétendre à avoir des consultations telles que vous venez nous les décrire?
Mais le but, c'est ça va être de se rencontrer éventuellement donc à la maison de l'avocat, de faire un point un petit peu sur vos besoins et sur ce qu'on peut mettre en place. C'est exactement ça. Oui. Et après, de voir si soit une consultation à raison d'une fois par mois, soit, enfin voilà, il y a plein de possibilités de listes d'avocats spécialisés sur telle ou telle matière qui peuvent être mises en place. Enfin, il y a le but, c'est justement ça, c'est l'avocat de proximité. Donc on est ouvert complètement à ce type de partenariat, n'hésitez pas.
Voilà, donc ça veut dire que si des auditrices auditeurs nous écoutent et sont présidents d'associations ou autres, ils vont à la maison des avocats et pour vous rencontrer et puis essayer de mettre en place une permanence.
Exactement.
Très bien. Merci infiniment, Anne-Lise Vistup-Gilbert, pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre?
On a fait à peu près le tour.
On a fait le tour. Bon, très bien. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres avec l'interview de Corinne et Christophe dans quelques instants. Merci, Anne-Lise, bâtonnière du barreau du Val d'Oise. Et puis, on mesure tout votre investissement et votre engagement envers la justice et le soutien aux avocats de votre barreau.
Bravo. Merci
à vous. Voilà, c'est l'heure de faire une vraie pause. Ne partez toujours pas, l'émission continue avec mes deux autres invités. We can never fall in love, 'cause you're not the type of soul that I trust. You do it quick and run away, not the one that likes to stay, yeah, I get it. Yeah, I know. You're in for the kill. You're
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Merci d'être toujours en notre compagnie sur IDFM Radio avec à mes côtés Anne-Lise Vistube-Gilbert, bâtonnière depuis le 1er janvier 2025 du barreau du Val-d'Oise, avocate en droit pénal et en droit des étrangers, Corinne Relmy et Christophe Givois. Corinne Relmy, directrice de l'association SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement Val-d'Oise, hein, donc directrice salariée, et Christophe Givois, président, administrateur donc de cette association. Alors, Corinne Relmy et puis Christophe Givois, même punition que Annie, je vous laisse vous présenter, Corinne.
Donc, Corinne Relmy, salariée unique pour le moment de l'association SNL 95, titulaire d'un master politique sociale, territoire et stratégie de territoire, et d'un DES JEPS, donc c'est un diplôme d'état supérieur, jeunesse et des sports et cohésion sociale.
Très bien, donc vous étiez vraiment faite pour cette association.
Tout à fait.
Et donc comment vous êtes-vous retrouvée directrice de l'association SNL?
Alors après avoir obtenu mes deux diplômes, j'étais chargée de mission pour une association qui gère des foyers de jeunes travailleurs. Mmh. Donc après 10 ans à explorer tout le champ des foyers de jeunes travailleurs, je me suis dit pourquoi pas explorer un autre versant du logement. Et c'est là que j'ai découvert la proposition d'emploi de SNL 95. Et ensuite, j'ai postulé pour suivre le processus de recrutement. Et j'ai eu la chance d'avoir été retenue.
Très bien. Vous étiez déjà président, Christophe?
Oui, SNL 95 est une jeune association qui est née en 2000. Donc qui existe 2020. Depuis 5 ans, 2020, qui est une association départementale. Et quand Corinne est arrivée, j'étais président depuis le mois de juin, donc 2023.
Oui.
Et Corinne est arrivée l'année dernière, en janvier 2024.
D'accord.
Donc nous avons auparavant créé l'association, nous avions une salariée travailleuse sociale à mi-temps, mm-hmm. qui s'est retrouvée un peu submergée avec beaucoup de travail dès le départ, et même si épaulée par un groupe de bénévoles assez conséquent, donc entre 30 et 40 bénévoles, qui ne pouvaient pas assurer la partie professionnelle. Donc cette travailleuse sociale a fait un superbe boulot pendant 2 ans, et nous sommes retrouvés, elle a eu... ça a été un peu fatigant.
Oui, intense.
Très intense, surtout c'est la création d'une association. Et donc, on a, à un moment donné, recruté un poste qui nous permettait d'envisager l'action de l'association de la meilleure manière, un poste de direction et de travailleur social. De travailleuse sociale, pardon, directrice et travailleuse sociale. Oui. Et du coup, nous avons embauché Corinne et nous en sommes tout à fait ravis.
Ah bah écoutez, très bien, très bien.
Et il faut juste savoir, alors moi je voudrais quand même qu'on commence par dire un peu sur quel domaine on parle.
Oui,
on parle dans un domaine qui est l'association donc Solidarité Nouvelle pour le Logement a 4 piliers d'activité qui sont la création de logements, la location de ces logements à des personnes en situation de grande précarité, puis ensuite un accompagnement de ces personnes vers le logement social auquel elles ont droit, et enfin, et là ça rejoint notre invité précédente, c'est le plaidoyer contre le mal logement. Donc nous avons aussi un côté plaideur, qui est notre 4e rôle. Et surtout, ça traite d'un problème qui, en France, touche beaucoup de monde. Je veux rappeler quelques chiffres quand
Il y a
350 000 SDF en France, ça veut dire que c'est quand même beaucoup de monde. Il y a 590 000 hébergés par des tiers, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont dans des situations où ils
combien
préféraient...
Combien hébergés par des tiers?
Par des tiers, c'est hébergé par...
Oui, mais combien de...
580 000,
oui.
Et il y a, donc, en hébergement, il y a 71 000 places d'hébergement en Île-de-France, donc ce qui est peu. Et il faut savoir juste que ces places d'hébergement coûtent cher aussi, et que coûtent aux environs de 11 000 euros, et que l'hébergement proposé par SNL coûte 3 000 euros. Ce qui fait que, dire en gros, qu'est-ce que ça fait porter par les pouvoirs publics. Ça, c'est quelques chiffres pour un peu illustrer, et qu'on peut continuer après en donnant, nous, les chiffres de notre action, qui sont en Île-de-France, parce que nous sommes dans le Val-d'Oise, mais il y a aussi 5 autres associations départementales en Île-de-France, fédérées dans une fédération SNL Union, Solidarité Nouvelle pour le Logement Union. Et sur le Val-d'Oise, les chiffres, Corinne, peut-être que ou sur l'île de France, on peut donner les chiffres.
Bon, ça va être plutôt Val d'Oise et en ce qui concerne SNET 95. Donc, on a 12 logements actuellement. On est à la fois basé sur Deuil et Margency. Mm-hmm. On accueille 12 familles, ce qui représente 37 personnes. On a à peu près 30-35 bénévoles qui œuvrent activement pour l'accompagnement auprès des familles, en plus de mon accompagnement social.
Oui. Et donc ces logements donc pour 12 personnes, enfin 12 logements et donc 12 familles hein, soit en, comme vous disiez 37 personnes. Ce sont des logements qui sont occupés pendant combien de temps?
Alors en moyenne 3 ans et demi.
D'accord.
Voilà, donc en fonction des difficultés des familles à résoudre, ça peut varier de 2 ans, 3 ans. Là, il y a les familles qui sont là depuis 4 ans.
Donc, en fait, c'est, vos logements, ce sont des passerelles en attendant que les personnes trouvent des logements plus...
soient relogées en logements durables et pérennes. Ouais, tout à fait.
Oui. Et donc 4 ans, oui, c'est une vraie durée quand même.
Oui, 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 tout à fait. Sachant, comme disait tout à l'heure Christophe, il y a eu un an où il n'y a pas eu l'accompagnement social qui aurait permis à ces familles-là d'intégrer un logement pérenne. Mais voilà, là, on y travaille. La prise de contact avec les différents bailleurs sociaux du territoire, c'est un grand pas. Donc là, il nous reste à avoir les logements avec la typologie particulière,
oui.
Parce que là, il y a 2 familles qui sont prêtes au relogement. Ce sont quand même 4 personnes par famille, mm-hmm. Donc il faut au moins des T4.
Bien sûr.
Donc
bien
un
sûr.
Salon et 3 chambres.
Oui. Alors, vous dites que vous êtes installé à Deuil et à Margency. Est-ce que l'intervention de du maire est importante dans votre installation?
Oui, tout à fait. On travaille en lien avec les mairies de manière assez rapprochée parce que dans nos modes d'acquisition, il y a des biens qui sont préemptés par les municipalités et qui sont après orientés vers des associations qui font ce travail de créer du logement très social.
Mmh.
Et donc, nous sommes actuellement pour parler avec différentes municipalités. Nous sommes à un moment aussi, un premier projet qui va normalement voir le jour en 2026. Et puis, nous sommes en dialogue avec la mairie d'Enghien-les-Bains.
D'accord.
Et c'est des dialogues en bonne intelligence. Mmh. C'est l'intérêt de tout le monde. Donc, effectivement, ça passe par... En plus d'un travail auprès des personnes... Il y a ce travail auprès des institutions et des collectivités. Tout à fait.
C'est important. Alors moi, je reçois quelques élus dans mon émission et j'ai compris que il y a des bailleurs sociaux indélicats, il y a beaucoup de marchands de sommeil. J'imagine que vous, quand vous présentez votre projet, vous êtes garant de lutter contre ces marchands de sommeil et que vous avez la préférence. Est-ce que c'est compliqué pour vous pour remplacer ces bailleurs sociaux?
Disons que c'est justement l'outil de la préemption qui est important. Il y a l'établissement public foncier d'Île-de-France qui fait un travail de repérage aussi avec les municipalités.
Mmh.
Et nous sommes des garants, effectivement, d'une part, ce que vous dites de ne pas être des marchands de sommeil, ça c'est certain, mais aussi nous sommes des garants de la création de logements qui répondent aux conditions du développement durable et de l'économie d'énergie. Parce que nous avons un rôle d'accompagnement aussi auprès de nos locataires. Cet accompagnement aussi consiste en les bonnes pratiques, c'est-à-dire la bonne pratique de sa consommation d'énergie, la bonne pratique du lien social et du voisinage. Et donc notre accompagnement qui est fait par des bénévoles, en plus du travail d'accompagnement social et professionnel de Corinne, est un accompagnement de super voisins qui aident ses locataires à s'insérer dans le tissu de la ville. Et donc c'est aussi à ce niveau-là que nous offrons une garantie auprès des municipalités d'être dans cette démarche de dialogue et d'accompagnement vers un bien vivre ensemble.
Oui, oui, oui.
Voilà,
c'est important.
Tout à fait.
Ces logements, parce qu'il y a une vraie crise aujourd'hui du logement neuf. Ces logements sont des logements réhabilités, sont des logements neufs.
Oui, ce sont des logements que nous remettons à neuf,
oui.
Nous les rénovons. Donc il y a aussi d'ailleurs des particuliers qui nous confient des biens.
C'est votre association qui remet à neuf?
C'est notre association qui s'occupe de la remise à neuf,
oui.
Par l'intermédiaire. Alors là, je ne veux pas rentrer dans des détails un peu compliqués. Mmh, juste, il y a une foncière qui est adossée aux associations départementales.
D'accord.
Et qui, elle, justement, s'occupe de tout ce qui est, qui fait ce qu'on appelle la MOI. Alors, c'est plein d'acronymes. C'est pas mon domaine, en fait.
La maîtrise d'ouvrage d'insertion.
D'accord. Oui, très bien.
Et donc, c'est la foncière qui garantit la mise en place de cette MOI. Et donc, du coup, qui a des liens avec les entreprises et qui s'occupe, elle, de tout ce qui est la partie rénovation. Effectivement. Et donc, oui, mais je crois que...
Oui, alors donc, mon autre question, c'était, ces familles logées paient-elles un loyer? Et
bien
de
sûr.
Quel ordre?
Oui, alors la particularité des logements qu'on propose, ce sont des logements adaptés très sociaux. Donc ça, c'est adapté, donc ils payent un loyer qui est inférieur à ce que pourrait proposer un bailleur social classique. Donc oui, effectivement, donc pour vous donner un ordre d'idée, pour un T1, donc une pièce, le loyer va être de 265 euros à peu près. Hors charge,
oui.
Et sans la prise en compte des APL, donc les aides personnalisées pour le logement.
Très bien, donc une assurance pour vous d'avoir que le loyer soit quand même versé.
Tout à fait, puisque les candidatures sont adressées par le service social départemental du conseil départemental, donc les assistantes sociales qui accompagnent ces familles-là, les connaissent bien, et quand on présente la typologie des logements, elles font en sorte que les candidats puissent avoir les ressources nécessaires pour pouvoir payer un loyer. Et ensuite, ça fait partie de l'accompagnement que l'on propose pour la gestion du budget, le paiement du loyer, pour ceux qui avaient par exemple l'habitude de payer en espèces dans leur autre parcours de logement. Avec nous, on met en place la procédure du virement, la procédure du prélèvement, ce qui est totalement pédagogique. Quand ils vont intégrer un logement social, ils seront la marche à suivre pour être tranquillisés par rapport à ça.
C'est ça, vous leur donnez, vous leur offrez un logement, mais vous leur offrez aussi tout un parcours de vie à suivre pour la suite.
La possibilité de se dire, c'est ma maison pendant ce temps-là, et ensuite on me laissera dans une autre maison qui sera peut-être qui sera mieux que celle que j'ai là. Et donc c'est cette possibilité d'habiter, d'avoir un toit au-dessus de soi, pour pouvoir envisager autre chose, parce que souvent c'est à partir de parcours de vie qui sont pour certains qu'on a eu du mal
à assumer. Un accident de vie.
Tout à fait. Donc c'est vraiment cette possibilité-là d'offrir transitoirement quelque chose qui permet de se donner une idée de qu'est-ce que c'est que ma maison, comment je peux l'habiter, et après de donner la possibilité de l'avoir.
Vous connaissiez cette association, Annelise?
Non, pour dire la vérité, je ne connaissais pas, donc je suis ravie de découvrir aujourd'hui un petit peu tout ça. C'est très bien, très très bien ce que vous faites. Mais effectivement, non, je ne connaissais pas du tout.
Oui, non, moi non plus, j'avoue que j'ai été sollicitée par Corinne et vous avez bien fait d'insister. Je propose qu'on fasse une courte pause et puis on va parler de vos ressources aussi et puis des aides qu'on peut vous apporter. À tout de suite.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment.
Et moi je te connais à peine, mais ce serait d'une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne.
de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand il vous parle d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Merci toujours d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et je reprends cette interview avec Corinne Relmy et Christophe Givois. Alors, donc qui dit association dit, j'imagine, subvention, dons, aide. Quelles sont vos ressources, Corinne?
Donc pour l'instant, nous sommes financés par le conseil départemental.
D'accord.
Pour l'accompagnement social, pour l'équipement des logements. Et pour l'insertion professionnelle des familles.
Donc c'est le conseil départemental couvre tous vos frais de fonctionnement?
Oui, pour l'instant oui.
Très bien. Donc oui, ça c'est précieux alors.
Tout à fait. Mais ça reste quand même fragile au vu des budgets qui sont alloués pour d'autres projets. Donc pour nous le fait d'être présent aujourd'hui, c'est vraiment trouver d'autres sources de financement.
Oui.
Pour développer des projets dont on réfléchit, qu'on aimerait bien mettre en place pour l'épanouissement et l'autonomisation des familles.
Mmh.
et aussi pour notre développement.
Bien sûr.
Sachant qu'on travaille aussi sur des projets d'habitat inclusif,
oui,
ou des choses comme ça, et c'est des projets qui demandent un peu du temps et des fonds. On est aussi financé un peu, notamment sur les projets, par la Fondation pour le logement des déshérités, qui est
ah
une
oui,
nouvelle la fondation qui est l'ancienne FAP,
mm-hmm.
Fondation Abbé Pierre.
Ah oui.
Donc on est aussi aidé par eux pour
oui,
ça.
Oui, dans le cadre de la MOI, dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage d'insertion,
oui,
pour
ça.
Le travail
oui,
social.
Oui,
pour,
oui,
tout
oui,
est,
oui.
Pour tout ce qui est
chantier. Pour tout ce qui est rénovation.
Voilà, projet,
oui.
Voilà.
Vous disiez tout à l'heure, Christophe, que des particuliers peuvent vous offrir des logements, c'est ça?
Les particuliers peuvent offrir des logements. Il y a des baux à réhabilitation qui sont des baux sur des temps de type 15 à 30 ans, je crois.
Oui, c'est ça.
Et qui sont des baux qui permettent une rénovation par l'association, un abandon du loyer par le propriétaire, en échange de retrouver son bien en état rénové.
D'accord.
Au bout du bail. Alors ça se fait. Il y a différents types de. Il y a le leg, bien sûr.
Oui, bien sûr.
On peut avoir des legs. On peut recevoir des dons. On est tout donateur et le bienvenu. On peut aussi prendre des parts dans la coopérative Solidarité Nouvelle pour le Logement Prologue, qui est donc une foncière. Donc on peut prendre des parts qui fait qu'on est propriétaire de ces parts.
Oui.
C'est des parts sans intérêt qui sont récupérables
quand on veut.
Quand on veut.
Il n'y a pas quand même un minimum de temps pour laisser ces parts, probablement.
7 ans.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Donc ça, c'est un peu nos financements. Et après, on trouve des mécénats. Par exemple, la Caisse locale du Crédit Agricole nous a aidés. On a eu la Fondation Castorama qui nous a aidés sur des projets. À chaque fois, des fois ça peut être en lien avec des chantiers, des fois ça peut être en lien avec des actions.
Oui.
La CAF a financé quelques actions sur le bien-être notamment.
Tout à fait, oui. Le bien-être en famille.
Voilà.
Donc est-ce que ça c'est quand la CAF vous subventionne, ça répond à un appel à projet que vous devez remplir, c'est ça ?
Oui.
Il faut quand même avoir une, enfin il y a une contrepartie.
Oui, tout à fait. Présenter un projet qui inclut les membres de chaque famille.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui est important. Donc on a déposé un projet qui va avoir lieu pendant les vacances d'avril où ce sera des actions de bien-être et on va proposer aux familles de s'inscrire ensemble pour profiter de massages, de réflexologie plantaire, de séances de yoga, de sophrologie et de câlinothérapie.
Oh là là, voilà. Câlinothérapie. Je connaissais pas le terme. Donc, les besoins de la profession, c'est que vous êtes quand même à la recherche toujours de plus de bénévoles.
Alors, toujours de plus de bénévoles, bien sûr. Ça, c'est important. On est aussi à la recherche de biens.
De biens, oui.
En fait, il y a vraiment un problème de toute façon dans toute la filière logement. C'est pas nouveau, mais on est vraiment en demande et en attente de que les gens. C'est très difficile de trouver un logement, y compris quand on n'est pas précaire.
Mm-hmm.
Donc, on est plutôt nous un reflet d'un monde à ce niveau-là qui va pas très bien,
oui.
Et où ça circule pas assez. Et donc, juste pour savoir, nous, dans le type de logement que nous avons, je crois, que 20% de les deux chiffres qui sont saisissants, c'est qu'il y a une offre qui ne peut pas être satisfaite de toute façon.
Okay. Donc oui, c'est vrai. Il y a un écart entre la production de logements sociaux,
oui,
et le nombre de demandeurs de logements sociaux. Donc voilà, la différence est de 80%. C'est énorme.
Pour le type de logement que nous proposons.
Oui, oui, logement très social.
Pour lequel nous sommes, sur l'Île-de-France, le premier producteur de logements.
Mmh.
C'est des logements adaptés pour les plus précaires. Le PLAI adapté, encore un acronyme,
oui,
qui est le prêt locatif aidé d'intégration. Donc c'est des types de logements passerelles que nous mettons en place. Nous sommes le premier producteur de ces logements-là. Donc il y a aussi toute une partie, on va dire, plaidoyer politique dans notre travail, qui est que d'alerter, par exemple, quand la région Île-de-France annonce un gel de tout ce qui est projet État-région.
Mm-hmm.
Ben pour nous, ça veut dire qu'il y a 113 projets de construction qui sont remis
en...
qui risquent de disparaître.
Mm-hmm.
Donc, ça veut dire 113 familles qui ne seront pas logées.
Oui, là, c'est vrai que moi, je reçois régulièrement des gens du bâtiment et il y a un vrai problème avec les logements neufs. Hein, donc, j'imagine que les logements sociaux en font partie, forcément.
C'est ça. Ouais. De manière encore plus aiguë que dans les autres catégories de logements.
Et à votre avis, comment les citoyens peuvent-ils s'impliquer pour soutenir les actions de votre association ?
Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles, donc plus d'une trentaine, c'est pas rien pour une petite association comme la nôtre. Et
qui ont quel profil ces bénévoles ?
La plupart du temps retraités, il y en a encore qui sont en activité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réparti sous forme de commissions.
Mm-hmm.
Donc nous avons une commission communication et développement des réseaux. Ils nous réalisent aussi nos affiches, nos flyers lorsqu'on organise des actions. On a la commission collecte de fonds. Donc voilà, on se réunit de manière à trouver des stratégies pour trouver des fonds, des financements, des dons matériels pour différentes actions. On a également recherche de biens et travaux. On a une commission gestion locative, parce que lorsque les locataires rentrent dans le logement, on effectue avec eux l'état des lieux d'entrée, on fait des visites techniques durant leur séjour et on fait l'état des lieux de sortie. Donc ils sont vraiment familiarisés à comment entretenir le logement et quand il y a des petits soucis meubles à démonter, une plaque de cuisson qui ne fonctionne pas, les bénévoles petits bricoleurs viennent donner un coup de main aux familles parce que on les inclut dans le comment faire.
Bien sûr.
Que le fondateur donc de cette association, Étienne Primard, insiste beaucoup sur le fait que d'être bénévole à SNL, ça implique juste de s'être investi, d'avoir donné du temps.
Du temps.
Et que à partir du moment où on a donné de son temps, on est bénévole, en tout cas pour l'année en cours. Donc c'est vraiment, Corinne parlait du groupe bricolage. Le groupe bricolage, parfois il y a des gens qui passent, qui donnent un coup de main, ça suffit pour être un bénévole de SNL 95.
Oui.
On préfère quand ils sont un peu plus pérennes, mais...
Oui, oui. Est-ce que ces bénévoles doivent payer une adhésion?
Non.
Non, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment le temps qui compte.
D'accord. Et vous trouvez vraiment des... Parce que je vois, avec toutes vos commissions, vous trouvez vraiment des personnes qui s'investissent pour... Oui. Parce que c'est du temps, quand même.
Oui, on a des personnes qui sont là depuis le début, depuis la création. Et chaque bénévole a son propre réseau personnel, familial, professionnel. Et c'est comme ça qu'on arrive à
avoir toujours... Ils recréent eux-mêmes une structure... indépendante, quoi.
Ouais, tout à fait.
Ouais, bah écoutez, bravo, parce que nous sommes aussi une radio associative et on sait que la gestion des bénévoles, c'est pas évident. C'est pas évident. Merci infiniment, Corinne Relmy et Christophe Givois. Merci pour votre dévouement et puis cette cause, du logement solidaire, puis votre travail acharné, on comprend, pour aider les personnes en difficulté. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre?
Le fait d'être présent ce matin, c'est vraiment une chance de visibilité, de se faire connaître, donc de faire venir un maximum de futurs bénévoles, des donateurs ponctuels, et aussi de nous faire connaître auprès des municipalités qu'on connaîtrait pas, pour ne serait-ce que commencer par présenter SNL, les avantages que nous présentons. Donc, merci beaucoup, Jacqueline.
Mais non, je
j'espère
vous en
qu'on va avoir appuyé sur le bon bouton pour donner à des gens envie de s'investir et de rentrer en action.
Mais voilà, écoutez,
parce que SNL est un mouvement.
Oui.
Et donc, le mouvement est à rejoindre.
Oui. On comprend que vous êtes très investi et merci pour tout ce que vous faites. Voilà, notre émission arrive à sa fin, mais bon, on a une petite tradition. Merci en tout cas à vous trois pour ce temps accordé à notre média et puis votre engagement à rendre notre société plus juste et solidaire. Mais donc, la tradition veut que je redonne la parole à mes invités pour un mot de conclusion. Je vais peut-être commencer par vous, Corinne, un petit mot de conclusion avant de nous quitter.
Merci. Merci à vous, Jacqueline, de nous avoir donné l'opportunité d'être présent ce matin. Merci aux bénévoles qui forment de dynamiques groupes locaux de solidarité. Et merci aux locataires de nous faire confiance durant cet épisode de leur vie, de leur parcours de vie.
Est-ce que ces locataires, lorsqu'ils quittent la SNL, vous gardez des contacts avec eux?
Oui.
Parce que c'est un moment fort pour eux, pouvoir les loger.
Au-delà d'être bénévoles, au-delà d'être locataires, ils sont également membres de l'association. Donc quand ils s'en vont, ils ont créé des liens avec les accompagnateurs bénévoles. Mmh. Et donc il y a un lien qui perdure pas mal de temps. Et ça, c'est révélateur
c'est
de la confiance qu'ils nous ont accordée.
Christophe Givois.
Moi, je voudrais répéter ou dire que SNL, c'est un mouvement qui transcende un peu les clivages aussi. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on est tous très différents. À part, effectivement, qu'il y en a beaucoup qui sont retraités. On vient tous d'univers un peu différents. On n'a des fois pas les mêmes opinions sur tout. Et ça, c'est très bien.
Mais il y a un point d'orgue par rapport à cette...
On se retrouve autour d'une idée, autour de ce mouvement. Et ça, c'est ce qu'on souhaite conserver, vraiment
possible.
Cet esprit-là,
d'ouverture
et de faire avec et de confronter pour avancer.
Vous disiez que vous étiez une trentaine de bénévoles. Il faudrait que vous soyez combien pour tourner encore mieux?
Moi, je dirais 50.
50, donc 20 bénévoles, voilà. Il y a 20 places à prendre pour nos auditrices et auditeurs. Merci infiniment, merci à vous. Annelise, le mot de la fin est pour vous.
Le mot de la fin est pour moi. Alors déjà, merci pour cette invitation dans votre émission. Et je voulais juste revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les idées reçues sur les avocats. Il y a actuellement une campagne de communication du CNB, donc qui est le Conseil National des Barreaux, qui est notre représentation nationale. une campagne d'affiches pour renverser les idées sur la profession d'avocat. Et je voulais vous lire une des affiches, parce qu'il y en a plusieurs.
Je vous en prie.
J'en prends une. Et donc, quand on lit l'affiche, il est écrit « Un avocat, ça coûte un bras. Il faut arrêter de croire que tout le monde y a droit. C'est que pour les privilégiés, ce serait fou de penser que même si tu as des revenus limités, tu peux contacter un avocat. » Mais en fait, il faut lire cette affiche dans l'autre sens. Et donc, quand on la lit dans l'autre sens, ça donne. Tu peux contacter un avocat. Même si tu as des revenus limités, ce serait fou de penser que c'est que pour les privilégiés. Tout le monde y a le droit. Il faut arrêter de croire qu'un avocat, ça coûte un bras.
Oui, très bien. Vous me l'enverrez, cette affiche.
Avec plaisir.
Je la relayerai. Oui. Merci infiniment. Merci Anne-Lise pour aussi tout cet investissement et puis on vous souhaite le meilleur pour ces deux années à venir de bâtonnat et d'arriver à gérer à la fois ce titre et puis votre métier puisque vous l'avez toujours bien évidemment.
Oui.
Voilà, l'économie en direct est terminée. Merci Francky pour la technique. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir été fidèles, comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le portail de la radio idfm.fr. Et mardi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de l'économie en direct qui sera consacré au Forum de l'emploi en lien avec la CPME à Roissy. Donc à mardi, d'ici là, bonne journée et bon week-end.
France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Another weekend and I'm gone. It's time to go, I'm coming home. Somebody tell me if I'm wrong. I need to be where I belong. Another weekend and I'm gone. It's time to go, I'm coming home. Somebody tell me if I'm wrong. I need to be where I belong. Another weekend and I'm gone. It's time to go, I'm coming home. Somebody tell me if I'm wrong. I need to be where I belong.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Va savoir s'il n'y aurait pas au fond de nos poches une vieille machine à faire des vœux.
À faire sourire quelques mioches à leur repeindre leur ciel en bleu.
Va savoir s'il n'y aurait pas au fond de nos cœurs
un peu de bonheur qu'on peut donner.
Rien d'amour à partager pour de l'espoir à retrouver.
Un, deux, trois petits soleils comme ce petit bout de lait qui attend un geste au fond des poches. Au fond des poches. Tellement de petits soleils qui brillent bien mieux au fond de leurs yeux qu'au fond des poches. Qu'au fond de nos poches.
Si nos cœurs ne seraient pas sur nos mains, prêts à servir, à faire du bien.
Pour tous ces mômes qu'en ont besoin,
même pas grand chose, même trois fois rien.
Va savoir si ça ne vaudrait pas la peine
qu'ensemble on tente de faire cette chaîne.
De changer leur vie en fête foraine, au moins le temps d'oublier leur peine.
Un, deux, trois petits soleils, comme ce petit bout de rêve qui attend un geste au fond des poches. Tellement de petits soleils qui brillent bien mieux au fond de leurs yeux qu'au fond des poches. Au fond de nos poches.
Va donner, va donner
à ces bouts de chou et ces ados.
Va donner, va donner
l'espoir et le rêve à nouveau.
Va donner, va donner. Parce que ces pièces jaunes peuvent encore parfois se transformer en or.
Et plein de petits soleils comme ces petits bouts de rêve qui attendent nos gestes au fond des poches. Au fond des poches.
Au fond des poches.
Tellement de petits soleils qui brillent bien mieux au fond de leurs yeux qu'au fond des poches.
Love like this before. Now that
diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Le rock est toujours bien vivant, va les voir et les écouter. The Dead Daisies. Tour du monde avec une halte en Île-de-France, ici au Forum de Vauréal, vendredi 14 mars à 20h30. Avec en ouverture, The Treatment. L'énergie et la bonne humeur communicative au Forum de Vauréal, vendredi 14 mars à 20h30. The Dead Daisies, des places à gagner sur IDFM pour les plus rock d'entre nous.
Tu veux taper des barres, apprécier de nouveaux sons et découvrir des profils inspirants? Viens. L'équipe de Tous Ensemble t'invite à écouter Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM. Focus, des histoires uniques, portées par le rythme de la musique. Ça se passe sur IDFM Radio 98 FM.